trois invités à la recherche de la poétesse Mina Loy, éperdument avec l'écrivain Mathieu Terrence, complètement avec le poète et traducteur Olivier Appert, plus un détour avec le designer graphique Philippe Milot du côté d'Arthur Cravant, boxeur, poète et mari comète de Mina Loy.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Philippe Milot, Olivier Appert, Mathieu Terrence, bonjour, bienvenue à tous les trois.
Bonjour.
Philippe Milot, vous êtes designer graphique, bien que le mot ne vous plaise guère. C'est en tout cas en qualité de graphiste que vous faites vos débuts, je crois, ici même, au début des années 90, pour Radio France. Designer graphique donc, enseignant aux arts déco, dessinateur de caractères, dessinateur de livres, en particulier pour les éditions 100 pages, fondées par Olivier Gadet il y a 20 ans, maintenant à peu près. Principe, en tout cas l'un des principes, pas un livre semblable, au catalogue notamment deux ouvrages, objets, fabriqués ou dessinés par vos soins, pour accueillir la langue d'Arthur Cravant, le boxeur-poète disparu en novembre 1918 dans le golfe du Mexique, laissant à terre Mina Loy, sa brève épousée donc. Et Mina Loy, comme ça tombe bien, Olivier Appert, c'est votre obsession à vous, poète, librettiste et traducteur, l'une d'elles en tout cas, fidèlement, obstinément traducteur de Mina Loy, puisqu'on vous doit tout ou presque de ce qui a été publié en France. Un roman, Inzel, une partie de sa poésie, parue d'abord aux Ateliers des Brisants, ça c'était au début des années 2000, puis aux éditions Nous, son manifeste féministe et écrit moderniste, et enfin, tout juste paru, sa poésie complète de 1914 à 1953, sous le titre de « Il n'est ni vie ni mort ». Et Mina Loy, c'est aussi votre héroïne à vous, Mathieu Terrence, écrivain, essayiste, auteur notamment du Journal d'un cœur sec et du Transhumanisme est un intégrisme, qui signe chez Grasset Mina Loy, virgule, éperdument, le récit d'une vie, donc celle d'une poétesse, artiste, féministe, designer parfois, amante souvent, mère hésitante, née anglaise en 1882 dans l'Angleterre victorienne, disparue au milieu des années 60 américaines, entre-temps Munich, Paris, Florence, New York, le futurisme italien, les avant-gardes artistiques et littéraires, les amitiés et amours de Marinetti, Duchamp, Picabia, Pound, Joyce, William Carlos Williams, Gertrude Stein, et au centre, Fabienne Loy, alias Arthur Cravant, le poète et boxeur follement aimé entre 1917 et 1918.
Approche, corps fantôme. Tendre Arthur. Ma brute. Playa de los Muertos. Je reviens chaque année sur ces rives. Tu as acheté une barque à Puerto Angel pour me rejoindre. Je veux y croire. Où es-tu, Colossus? Tu t'es engouffré dans le mouvement aspiratoire des mers et des vallées. Sandras m'écrit que tu as ouvert une académie de boxe à Mexico City, puis que l'on t'a assassiné d'un coup de poignard dans un dancing. Breton raconte que tu es devenu professeur de culture physique. D'autres t'ont vu alcoolique dans son salon de coiffeur de la Costa Brava. On ne te pardonne pas d'avoir le cerveau musclé comme un bœuf. Ils disent que tu étais peut-être génial, mais sûrement fou. Un scandale ambulant. Un danger de tous les instants. Un poète sans maître. Un boxeur sans technique. Un artiste sans œuvre. Que puis-je leur répondre? Sinon, que tu es vivant en moi.
« la voix de Kate Moran lisant une lettre de Mina Loy, enfin un texte de Mina Loy à son colosse, hein, à Arthur Cravant. C'était sur l'antenne de France Culture pour l'atelier de création Le scandale Arthur Cravant de Stéphane Bonnefoy, diffusé en mars 2014. Et c'est au fond, Mathieu Terrand, c'est un petit peu le cœur battant de votre livre, en tout cas dans cette archive-là que vous avez demandé, Mina Loy, sa langue, et Arthur Cravant, le boxeur qui écrivait des poèmes. Donc Cravant que Mina Loy, et elle a alors 35 ans à peu près, rencontre à New York. Il s'installe à Mexico pour fuir la conscription. Elle y rejoint l'épouse et le père à l'automne de la même année, alors qu'il disparaît quelque part dans la baie de Mexico et qu'elle attend un enfant de lui. C'est le cœur battant du livre, mais c'est aussi, au fond, un petit peu son malheur à Mina Loy, hein, masqué un peu, en tout cas en France, par le grand homme, par les grands hommes, pourrait-on dire, hein, Duchamp, Picabia, Freud, même qu'elle va dessiner, Joyce, Magritte, Ernst, Marinetti, le futuriste, femme donc qui va traverser l'avant-garde et s'en trouve à la fois émancipée et écrasée d'une certaine façon, hein, pour cause d'histoire écrite au masculin. C'est d'ailleurs par Colossus, hein, son texte adressé à Cravant, publié en français dans l'œuvre de Cravant aux éditions du Champ Libre, hein, quelle ironie, que vous la découvrez, Mathieu Terrance. Mina Loy éperdument, que vous publiez donc aux éditions Grasset, c'est aussi ou d'abord un récit qui répare.
J'espère rendre justice à Mina Loy, à ma manière, oui. C'est une façon aussi de tracer le portrait d'une liberté, pour moi, très emblématique d'un mouvement de modernité au XXe siècle. C'était aussi, au début, m'intéresser justement, comme vous le dites, à celle qu'a aimé Arthur Cravant. Moi, je rencontre Mina Loy par Arthur Cravant de manière assez banale, c'est-à-dire comme je le dis dans...
Un peu comme tout le monde, hein, en
voilà,
tout cas ici
tout
en
le
France.
Monde. Et il y a des les amours sont contagieuses parfois. Et je me demandais qui avait pu aimer celui que j'aimais, qui était Arthur Cravant, et forcément je me disais je vais l'aimer. Et j'ai découvert que sa vie ne se résumait pas à effectivement les trois années avec Arthur Cravant. Que c'était une injustice, c'est vrai, de la résumer à ça ou de la cantonner à cela. Le parcours qu'elle fait dans trois époques presque était saisissant. C'est vrai qu'elle est restée un peu dans l'ombre, mais et vous avez raison que l'histoire certainement fait plus de place aux grands hommes qu'elle a pu connaître et aussi aux femmes en fait, parce qu'elle a vécu un amour avec Juna Barnes, c'est certainement la période la plus heureuse peut-être d'ailleurs pour elle au fond. Mais il y a aussi chez elle une magnifique rétivité, une sauvagerie, c'est-à-dire que elle va se tenir elle aussi en marge. Les gens qu'elle connaît au début du XXe siècle vont devenir en 10-15 ans des figures centrales, internationales de l'art. Et elle ne va pas être dupe d'une certaine mondanité de l'art à cette époque. Elle va toujours être critique. Elle va rester fidèle aussi à l'esprit de Cravant, qui était une sorte quand même de réfractaire infernal et qui ne pouvait pas supporter l'installation de l'avant-garde dans une sorte d'académisme.
Cravant qui
bon
lui dit hein, qu'il faut remettre en jeu son avenir une fois par an.
Oui, oui, oui. Et au fond, elle admire profondément cette liberté-là et elle va être fidèle à cette sauvagerie de Cravant. Et elle-même, au fond, est un être totalement indomptable. Enfin, elle est indomesticable. Donc, il y a aussi ça qui fait que la panthéonisation ou ne la prend pas dans ses rêves. Elle n'est pas exemplaire du point de vue de ce qu'un artiste doit faire quand même pour être admis dans l'histoire de l'art.
Olivier Appert, vous aussi, comme tout le monde, c'est par Cravant que vous tombez sur Mina Loy?
Pas tout à fait.
Chic.
Non, c'est par Mina elle-même, si j'ose dire. Et en fait, c'est tout simplement Bernard Noël qui m'a alerté, si j'ose dire, sur...
Le poète
deux,
Bernard Noël.
Voilà, le poète Bernard Noël, qui m'a alerté sur deux voix, qui m'a dit « Tu devrais davantage prêter attention à Mina Loy et à Juna Barnes ». Et donc je me suis, j'ai commencé à m'intéresser à Mina Loy. Et là, ça a été le titre de Mathieu est très beau éperdument. Je me dis c'est pas possible, on n'a jamais lu ça, c'est impossible c'est impossible que ça n'existe pas en français. Et puis je n'ai jamais lu d'équivalent en poésie de ce qu'a écrit Mina Loy.
Comment est-ce qu'il faut comprendre cet éperdument, Mathieu Terrin, c'est le vôtre ou c'est le sien?
À un moment, je pensais appeler le livre absolument moderne. Bon, voilà, parce qu'il y avait cette espèce d'injonction à une rimbaldienne, à la modernité et m'interrogeant sur qu'est-ce que pouvait être, qu'est-ce qu'on pouvait appeler la modernité. Il y a mille manières de la définir, mais il me semblait que pour aller vite avec un mot bête, la condition de la femme pouvait être assez parallèle ou vectorielle de la modernité en Occident et que Mina incarnait cette liberté-là, parce que c'est quand même une femme qui va s'émanciper des dictats, de la conjugalité, mais de la maternité aussi. Alors c'est douloureux, mais elle n'est pas une mère exemplaire en un sens. Toutes sortes de conventions en fait. Mais alors bon, association d'idées, le absolument moderne, peu à peu, j'ai voulu préciser ce que m'inspirait Mina et j'ai pensé à cet adverbe. Pour vraiment vous dire les coulisses, il y avait aussi en tête le livre d'Annie Lebrun que j'aime énormément, De l'éperdu. Annie Lebrun m'avait fait m'attarder sur ce mot éperdu et qui me plaît infiniment. Voilà, donc voilà, tout ça fait le titre.
Je vois que Philippe Milou prend des tas de petites notes sur son carnet.
Et oui.
On peut savoir ce que c'est ou pas du tout.
Je note des mots que j'entends et puis après je note des choses qui...
N'importe quoi à côté.
Non, qui pourraient me donner envie de faire un livre.
Voilà, il faudrait, moi c'est quelque chose à faire,
ce
qui manque, c'est qu'il faudrait, c'est faire un livre avec les œuvres plastiques de Mina Loy. Et effectivement, Mina est transversale, elle a beaucoup, beaucoup de talent, même jusqu'au design, abat-jour, chapeau, etc., vêtements, enfin bon. Et je pense que tout ça mériterait d'être...
Ce serait bien un livre d'abat-jour.
Abat-jour, Mina.
Sous forme d'abat-jour, mais...
Oui, abat-jour, car elle en a fait moult. Alors, le récit de ce Mina Loy éperdument, Mathieu Terrence, est comme encadré par deux chapitres titrés de la même manière. Hein, Londres 1882, là où naît Mina Loy, fille de Julia et Sigmund, juif hongrois et tailleur de son état. Sigmund l'adorait, Julia l'araignée, en tout cas c'est vous qui le dites, celle qui rit bête, vit bête. Mais comme une sorte de préambule, le livre s'ouvre à Aspen en 1953, là où Mina Loy mourra très calme, écrivez-vous, à 84 ans, d'accord avec le moment, portant des escarpins qu'elle a dorés elle-même. Qu'elle a dorés elle-même, pardon, j'ai mal lu. Elle a donc 70 ans, elle quitte New York et s'installe à ce moment-là auprès de ses deux filles. Pourquoi fallait-il commencer par là? Qu'est-ce que ces dernières années-là, qui sont des années de retrait par ailleurs, dans un temps qui n'est plus tellement le sien, nous disent de ce qu'elle a été?
En fait, rien chez Mina n'est synonyme de fin ou de deuil en un sens. La mort lui ressemble assez peu. Et je voulais qu'on en finisse tout de suite avec la fin, pour n'avoir plus que le reste à vivre.
Vous racontez comment, avant de la lire, avant de l'écrire, avant de la voir même, parce que là, vous tombez sur une photo assez tardivement, vous suivez sa géographie qu'on retrouve d'ailleurs dans la construction, dans la structure même du récit, donc Londres, Munich, Paris, Florence, New York, Mexico, Paris encore, New York, Aspen. Qu'est-ce que cette géographie-là raconte?
Des lieux d'ailleurs qui sont assez cruciaux dans l'histoire de l'art ou dans la politique. C'est-à-dire que quand elle est à Florence, c'est le futurisme et c'est le début de la Première Guerre mondiale. Elle a un épisode où elle devient infirmière. Enfin, ensuite, il y a New York au moment où New York est le centre du monde artistique. Et puis, tous ces gens vont se retrouver, vont traverser l'Atlantique dans la décennie suivante. Et on les retrouve sur trois terrasses à Montparnasse.
Paris.
Bon, enfin, je voyais aussi Mina comme une fugitive, en un sens. Ça aurait pu s'appeler comme ça aussi. Et donc, de pointer ces escales dans cette vie fugitive. Ça... Et puis, il y a des couleurs. Quoi. Les villes ont des couleurs. Ça permet un petit chromatisme. Ce mot, je ne sais pas s'il est bienvenu, mais je l'utilise en tout cas.
Alors, il y a la géographie. Et puis, il y a un corps, bien sûr, qui est celui de Mina Loy. Bon, un visage d'abord très beau, qu'on connaît parce qu'il a été beaucoup photographié, notamment par son mari.
Il y a deux, trois photos sublimes
qui
sont sidérantes de beauté et de modernité aussi.
Qu'est-ce que vous y voyez dans ces photos, Mathieu Terrence?
Non, d'abord la beauté, enfin, et puis cette espèce d'intemporalité, peut-être. Mais ça, c'est les photos. Bon, après, on ne peut pas la réduire à une photo ou à des photos. Mais ensuite, elle a un rapport avec les photographes, notamment Man Ray. Et là, on la voit servir à la fois de modèle et proposer aussi des choses. Elle arrive avec ses pendentifs, ses boucles d'oreilles en thermomètre, c'est ça. Et Man Ray, évidemment, il a plus qu'à faire clic. Quand Mina débarque, elle arrive avec sa singularité, son excentricité. Une excentricité d'ailleurs qu'elle va cultiver à la fin de l'adolescence quand elle est à Munich, quand elle se rend compte qu'elle est trop belle et que ça c'est terriblement encombrant dans les rapports sociaux parce que sa beauté, tout de suite la séduction, tout de suite. Alors elle va se cacher un peu dans des vêtements qu'elle commence à fabriquer elle-même, elle va se mettre à fumer la pipe, enfin elle va essayer de brouiller un peu cette séduction. Et toute sa vie elle ne va pas jouer sur la beauté dont elle aurait pu jouer. Sinon les 2-3 photos incroyables que son mari, le sinistre Weiss,
le nain fait
d'elle, où en fait j'ai l'impression qu'elle l'oublie et elle se donne dans sa beauté, dans sa féminité, pour une fois dans sa vie, comme ça. Il y a un moment comme ça où elle se dit, ben, je vais m'inscrire aussi comme ça. Il n'y a pas de raison non plus que je cache ma beauté de femme. Non.
Alors il y a son visage, il y a ce fameux chignon négligé qu'elle va adopter très vite, et puis surtout un corps que vous travaillez, vous, Mathieu Terrence, particulièrement par le vêtements, elle comme les autres, hein, d'ailleurs, parce que je pense aussi à son premier mari, franche comme une fille, étole moirée et collier d'ambre. Je pense aussi à l'arrivée de Cravant, à la soirée chez Léa Rensberg, là où il va rencontrer Mina Loy, où il arrive vêtu d'un simple drap comme un dieu grec, tandis que Duchamp, lui, arrive en astronome. Et puis, bien sûr, à Mina Loy, avec vous vous attardez sur les vêtements corsets, hein, des débuts de l'Angleterre victorienne, et puis ces vêtements excentriques, très vite, des vêtements qu'elle va tailler à sa mesure, jusqu'à la fin, hein, puisque vous parlez même encore de ces escarpins qu'elle adorait elle-même. Une Anglaise qui s'habille comme personne, dites-vous, qu'est-ce que vous permet ce soin, cette attention portée aux vêtements tout du long du récit ?
Ben, alors, il y a deux choses. D'abord, je commence à écrire Mina par intuition et par aussi contagion amoureuse via Cravant. Mais ensuite, quand on écrit, on vérifie des choses. Je vérifie qu'elle me plaît énormément. Je vérifie pourquoi. En fait, je comprends pourquoi elle m'intéresse en écrivant le livre. Effectivement, elle a un soin particulier avec ses vêtements parce que elle pense que, enfin, où elle vit l'art comme aussi un style de vie. Et le style, c'est une chose au fond absolument profonde. C'est une éthique au fond. Et elle va décider de ce à quoi elle ressemble, de comment elle va s'habiller. Là, ça va aussi avec la politique, c'est-à-dire qu'elle ne se conforme pas entièrement aux conventions de la féminité, c'est-à-dire de la mode, c'est-à-dire de l'argent, assez rapidement au XXe siècle. Et elle va inventer sa manière d'être, on peut quand même dire que c'est le propre d'un artiste d'avoir sa singularité jusque dans son apparence ou dans ses manières de faire. Voilà. C'est une idiosyncrasie auquel elle donne une forme et une beauté, en fait. Voilà. Donc ça va jusque dans les vêtements, dans ses attitudes, dans des choses comme ça.
Alors, le vêtement serait donc un principe moral, ou en tout cas une éthique, et puis c'est le corps, et donc c'est aussi la sexualité. Mina Loy s'explique « Je ne sais écrire que sur la vie, et la vie, à la fin des fins, est une question de sexe ». Elle y fait évidemment référence aussi dans les manifestes féministes écrits à l'ombre des futuristes. Hein, donc ça, c'est en 1914, où elle prône un dépucelage systématique à la puberté pour ôter, écrivez-vous, Mathieu Terrence, des mentalités, la notion de pureté indexée à la virginité. Et puis vous écrivez encore, Mina trouve que toutes les conversations autour de l'art, de l'académisme, sont une sorte de sexualité dévoyée. Est-ce qu'au fond, c'est sa sexualité souverainement libre, hein, vous l'avez déjà un petit peu évoqué jusqu'ici, qui en ferait d'abord une héroïne ou d'abord une absolument moderne?
Je réduirai pas la liberté à la sexualité, mais c'est plutôt, sa sexualité, d'abord elle la conquiert. Enfin, comme toute sa liberté, c'était assez beau aussi de suivre ça, c'est une conquête quand même. Elle vient de loin, elle a une mère extrêmement inscrite dans son époque victorienne, avec une morbidité accomplie, et donc elle n'a pas du tout une mère qui va être un exemple de bien vivre sa vie. Certainement sa mère a été totalement répulsée par la sexualité, et au fond, c'est avec la rencontre avec Cravant qu'il se passe quelque chose en elle, qui la révèle de ce côté-là. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est l'incroyable intelligence de Mina. Elle n'écrit pas une bêtise de sa vie, elle n'en dit pas une. C'est tout le temps intelligent, c'est tout le temps paradoxal ou décalé. Enfin, c'est vraiment un plaisir, c'était son intelligence, quoi. Et après, voilà, ça peut être parfois provocateur, mais ça laisse toujours un peu songeur dans la façon dont... enfin, elle a une pensée très singulière et on n'est jamais pris en péché de banalité, en fait, ou même de fadaise. Enfin, ça, c'était vraiment formidable.
Olivier Appert.
Oui, non, juste pour prolonger ce que disait Mathieu, Et à propos de l'intelligence, on y reviendra, mais dans la citation qu'il fait, c'est extraordinaire, parce que son intelligence, c'est avant tout, enfin, pas avant tout, mais avec, toujours accompagnée d'une ironie subtile. Et par exemple, dans le passage, quand elle raconte la rencontre avec Cravant, donc dans le texte Colossus, « Je me sentais comme couché sur les flancs d'une allandante montagne dont le sommet se perdait dans d'épais nuages. » Et après, elle rajoute « Si convaincu que ce partenaire que je m'étais trouvé souffrait de ramollissement de cerveau, que lorsqu'enfin une phrase intelligente sortit de sa bouche suffisante, j'en fus à avoir l'indifférent regret de ce qu'avait dû être un assez joli humour, se soit tari en sénilité précoce. »
En 14, elle va donc écrire ses manifestes féministes. Alors c'est très radical, mais en même temps, toujours un peu à distance, c'est-à-dire très lucide, mais parfois sarcastique, qui est aussi quelque chose qu'elle va prolonger dans ses écrits suivants. De quoi est donc fait le féminisme de Mina Loy, hein, d'après vous?
Avant Olivier, juste une chose, c'est que c'est pas une idéologue. Son féminisme, il est plutôt senti. C'est une manière, et puis c'est très artistique la manière dont elle a une vision de ce que pourrait être la femme. Elle s'oppose quand même au machisme ambiant, et c'est une réaction au machisme des futuristes. Et
c'est vrai qu'on se demande ce qu'elle peut bien les trouver dans un groupe aussi misogyne que celui des futuristes.
Hein. Elle aime leur flamboyance. Il n'y a pas beaucoup de choix pour les femmes à l'époque à Florence. Soit elles boivent du thé, soit elles se retrouvent dans la voiture de Marinetti à foncer à 2000 à l'heure dans les rues des villes. Alors bon, je pense qu'elle choisit la bagnole quand même. Et puis ensuite, elle juge le bonhomme comme elle sait le faire. Enfin, heureusement. Elle jauge l'animal en question, mais il va quand même lui donner cette impulsion un peu nietzschéenne de il faut ou socratique de devenir toi-même, de faire preuve de volonté et d'échapper oui aux conventions. Mais c'est pas une militante, voilà. Elle reste toujours très libre, notamment avec les discours de la liberté en fait.
Ouais. Olivier Appert.
Alors, ce qu'il y a à apprendre, par exemple, étonnamment, chez les futuristes, c'est le rapport à la vitesse, par exemple.
Et du coup, le traitement de la langue, d'une certaine façon.
Le traitement de la langue, la déstructuration de la langue. Donc, ce qui l'intéresse, Mina, là-dedans, c'est la vitesse. C'est la vitesse, c'est la brisure par rapport à l'académie, c'est la brisure aussi typographique, enfin, dans le texte même, dans la structure du poème.
C'est le côté aussi un peu dada, à ce
moment-là. Exactement.
Préfigurant,
oui,
dada, c'est-à-dire du scandale,
voilà, le scandale,
la façon de déconsidérer l'art dans son classicisme et d'essayer de trouver l'art un peu ailleurs que dans l'art.
Exactement. Avec tout ça.
Ce qu'elle va retrouver dans Cravant.
Dans Cravant, débarque. Qui sera pour elle, là, pour le coup, incarnée de façon sublime par Cravant. Alors, il y a ça, et donc, cette éthique qu'on retrouve aussi, dont parle Mathieu, qu'on retrouve aussi même après l'excentricité vestimentaire, mais qui n'est pas une excentricité à mon goût, c'est une élégance absolue. Je veux dire, elle s'habille, il y a quelques photos qui témoignent, on les retrouve. C'est toujours absolument sublime. C'est sublimement élégant. Je pense à une photo très belle où elle est devant un bar à Montparnasse avec tout le gratin, si je veux dire, des époques, aussi bien Cocteau, de Sarah, Manaret, Pound, etc. Elle a une espèce de grand manteau dont elle parle dans le roman Inzel d'ailleurs. Une espèce de grand manteau pailleté comme ça, avec un chapeau qu'elle fait elle-même. Et c'est d'une élégance, mais totale. Je veux dire, on n'est pas dans l'excentricité. Vous voyez, et là, la photo, il y a son espèce de béret, une espèce de lavalière 19e. Là, c'est un peu ridicule. C'est un peu pathétique, Tandis qu'elle, elle est absolument, il y a d'une élégance totale, raffinée.
Puisqu'on parlait de vitesse, Mathieu Terrence, vous parliez, la figure même de Mina Loy, en tout cas sa façon urgente comme ça de traverser son époque ou de circuler, ou ce goût de la vitesse convient ou convenait particulièrement à votre écriture. C'est une langue qui va vite, qui avance. C'est pour ça aussi ce que vous disiez en début d'émission, c'est-à-dire de se débarrasser de la fin. Oui, pour commencer, oui. C'est vrai que du coup le reste du récit avance très vite et même revient en boucle.
Une forme de poésie lapidaire aussi, c'est la leçon un peu de Rimbaud, même un peu avant, d'une certaine manière les amours Corbière, enfin, c'est pas très intéressant, mais en français, il y a les longues séquences, il y a une tradition de la très belle, l'enroulement de la phrase, enfin, ça va donner du Bossuet, Saint-Simon, Chateaubriand, Proust, et puis, il y a un abord d'éclairs, de fulgurance, de foudre, voilà, ça va donner une autre famille. Alors, en fait, j'ai démarré un peu dans la première famille, et je crois que je vais finir très vite, très jeune, mais très tard.
Thank you.
2011, Minaloy, un titre de Thurston Moore, membre éminent de Sonic Youth, un extrait de l'album Demolished Thoughts. Minaloy chanté aussi par Billy Corgan, hein, des Smashing Pumpkins. Minaloy biographé, commenté, universitarisé en Angleterre, aux États-Unis, mais Minaloy toujours mal connu ici. Alors c'est chose réparée aujourd'hui, puisque paraît aux éditions Nous, il n'est ni vie ni mort, poésie complète de Minaloy, traduit, présenté par vos soins, Olivier Appert. Je me demandais en fait quelle place elle occupait, puisque ici elle n'en occupe quasiment aucune, hein, on est bien d'accord, quelle place elle occupait en Angleterre, aux États-Unis, je parle même de place scientifique, universitaire, historique. Elle qui disait, qui écrivait « Mais pourquoi perdez-vous votre temps avec mes pensées ? Jamais je ne fus poète. »
Oui, ce qui témoigne d'une grande modestie, d'un grand orgueil et d'une grande modestie à la fois. Oui, c'est très étonnant, parce que vous dites ici, effectivement, elle est peu connue, on va dire ça comme ça, gentiment. Alors, aux États-Unis, effectivement, c'était très étonnant, parce qu'on en parlait aussi, elle s'est retirée peu à peu, quand elle est revenue aux États-Unis pour la dernière fois, si j'ose dire. Mathieu, c'est 30... Enfin, quand elle rentre de Paris pour la dernière fois, elle s'installe à New York et elle s'écarte peu à peu de la vie artistique. Elle s'installe en plus dans le Bowery. Oui, Bowery, dans les années 40 à New York, c'est la zone. C'est vraiment la zone. D'ailleurs, c'est les clochards, c'est la dope, enfin, etc., etc. Et on la sollicite plusieurs fois, elle ne répond pas. C'est très étonnant, elle se retire. Alors, ça, elle participe elle-même, si j'ose dire, de sa... Elle a déjà peut-être un statut, mais toujours dans ce micro-milieu artistique, on va dire ça comme ça, elle a un statut déjà un peu de légende, hein, de ce qu'elle est, de ce qu'elle a été, de sa beauté, de son œuvre, parce qu'on va quand même parler de l'œuvre, c'est quand même l'essentiel. Il faut savoir qu'effectivement, de son vivant, dans le fond, elle n'a publié qu'un seul volume, hein, Des cœurs lunaires, a été publié un seul volume, mais qui est devenu une référence. Et c'est seulement à la fin de sa vie, effectivement, donc dans les années 60, que Jonathan Williams, un auteur américain, va essayer à nouveau, donc ça dans les années 60, de la faire exister, si j'ose dire, à nouveau. Alors, à partir des années 60, la reconnaissance est revenue aux États-Unis et elle est devenue l'objet, effectivement, d'études universitaires sérieuses, pris sans doute dans le mouvement dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois des études féministes, à la fois des gender studies, etc., 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 puisque elle a effectivement un statut à part dans ce mouvement. Elle tient, par exemple, énormément, elle dit, heureusement qu'il y a une différence des sexes. Heureusement qu'il y a homme-femme. Même si elle a une relation avec Juna Barnes, etc., etc., elle tient énormément, même si à un moment donné, c'est la coqueluche de Nathalie Barney, vous savez, Nathalie Barney qui tenait salon dans les années 30, etc., l'Amazone de Rémy Gourmont, et qui était une grande lesbienne, etc. Elle tient, elle, à cette distinction homme-femme. Donc c'est très, elle a un statut très particulier. Donc à partir de là, on va dire à partir des années 70, 80, elle, petit à petit, effectivement, aux États-Unis, elle commence à devenir une figure de référence.
Alors, est-ce que vous voulez bien nous lire, pour commencer peut-être, l'un de ses tout premiers poèmes, hein, en 1914, « On est en Italie ».
On est en Italie, c'est vous qui le dites. Hein. « Par Dieu, frappés d'ostracisme, nous sommes. Les veilleurs des déserts civilisés renversent leurs signaux sur notre piste. Lépreux de la lune, tous magiquement malades, nous venons parmi vous, purs de nos lumineuses plaies. Ignorant comment nous dirigeons les lumières de notre esprit vers la passion de l'homme, jusqu'au moment où vous tournez vers nous vos doux visages de fous, semblables aux fesses dénudées par d'aborigènes moqueries. Nous sommes les clowns sacerdotaux qui, devant et d'étoiles des pâturages, poudrés de la pauvreté, s'approvisionnent. Par-delà vos lois, d'étranges disciplines façonnent nos volontés. Vous pouvez toujours nous donner naissance ou nous marier, mais les hasards de votre chair ne sont pas notre destinée. La cuirasse de l'âme luit encore, et nous n'y sommes pour rien si vous assimiliez une si brève corrosion à de la possession. Dans les cavernes primitives de l'incréé, nous forgeons le crépuscule du chaos, selon cette impérieuse joaillerie de l'univers, le beau. Cependant, qu'à vos yeux, une délicate moisson d'immortels mystiques et criminels s'offre à la faux du censeur.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farine.
On est au tout début, alors que Mina Loy a quand même déjà une trentaine d'années, hein, là, 30 ans, 32 ans, par là. Un mari qu'elle méprise, dont on a déjà parlé, oui. Une petite fille morte à l'âge de 1 an, 2 enfants dont un probablement illégitime. Tout le génie de la langue est là, qui sait sa voix, écrivez-vous. Qu'est-ce qui s'y annonce? Qu'est-ce qu'il s'y met en place, déjà?
D'emblée, tout vient là, à savoir, dans le vers même, dans la structure du vers même, dans la coupe, dans l'originalité de la coupe, dans la charge de sens du poème. Il n'y a aucune banalité. Mais c'était un peu terrifiant, même. Je veux dire, il n'y a aucune banalité. Et c'est terrifiant, surtout à traduire, je ne vous dis pas. Il n'y a aucune banalité, donc il y a une charge de sens terrible. Une relation, un travail sur la coupe, un travail sur l'assonance, un travail sur la syntaxe qui est déjà là d'emblée. C'est absolument extraordinaire. Et après, effectivement, on peut dire qu'elle ça creuse, elle creuse, mais elle creuse ce qui, d'une certaine façon, vient là comme... J'allais dire miraculeusement, c'est complètement stupide, mais en tout cas, vient là. Et tout le monde remarquera ça, enfin même un peu plus tard, dans les années 20, par exemple, très tôt, les critiques... Les amis remarquent cette espèce d'intelligence dont je parlais. Par exemple, quand elle est très liée à Pound. Pound, par exemple, a une très belle définition dans ABC de la lecture du poème. Il dit, la poésie, c'est logopoeia, phanopoeia, mélopoeia. C'est magnifique. C'est-à-dire, rythme, image, figure, tout ensemble. Donc, cristallisation de la phanopée de l'image, de la mélopée de la mélodie de la musique, etc. Et je pense que là, Mina Loy, par exemple, elle est dans cette cristallisation mélopée, phanopée, logopée. Elle utilise tous les instruments de la rhétorique avec une musique terrible et un sens de l'image absolument comme ça, terrible. Alors, par exemple, Pound, qui défendait beaucoup les imagistes, parce que ça a donné les imagistes, Marianne Moore, par exemple, on a beaucoup reproché aux imagistes justement de s'amuser beaucoup avec la logopée. C'est-à-dire d'être d'une certaine façon dans la gratuité de la langue, la gratuité du jeu. Et chez Mina Loy, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de gratuité. Enfin, il n'y a pas de gratuité au sens, il n'y a pas de jeu de la langue pour le jeu de la langue. Il y a toujours une espèce de sens cristallisé qui est là.
Pardon, un propos, monsieur. En fait.
C'est ça, un propos.
Dites cérébral sensitif.
Cérébral sensitif. C'est-à-dire, effectivement, un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi, que j'essayais de dire. C'est-à-dire que, comme elle essaie de conjoindre ce que nous sommes, c'est-à-dire, elle prend toutes les strates que nous sommes. C'est-à-dire, aussi bien, effectivement, le cérébral que le sensitif, que le sensuel. Moi, tout à l'heure, on parlait de sexualité. Je pense plutôt à Mina comme quelqu'un qui est du côté de la sensualité plutôt que de la sexualité. Mais bon, ça, c'est une petite distinction. Je pense que c'est une grande sensuelle. Mais qui est tout de suite, en même temps, sa sensualité, elle est en même temps, elle est prise aussi avec une cérébralité, pas à prendre au mauvais sens du terme. Hein. C'est-à-dire, c'est pas un intellectualisme, vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas une idéologue, comme disait Mathieu tout à l'heure. Il y a une grande cérébralité conjointe avec une grande sensualité, donc ça donne quelque chose d'extraordinaire.
On en a parlé tout à l'heure à propos des futuristes, Olivier Appert, mais c'est vrai qu'à partir de là, enfin, dès lors qu'elle commence hein, vraiment à écrire, le vers tout de suite va se disloquer, s'étoiler d'une certaine façon, et puis elle va user de césures typographiques, de ruptures, de violences, parfois de violences amusées, mais de violences tout de même, de syntaxe extrêmement secouée. Qu'est-ce que ça demande au traducteur?
Ça demande au traducteur de vivre un enfer. Pour moi, l'affaire de la traduction, c'est ça, c'est d'essayer de trouver... Dans la langue, ça c'est une chose, il y a le génie de la langue, et puis par contre ce qu'il faut trouver c'est, dans la langue pratiquée, le génie dans le génie de la langue. Donc le génie de l'auteur dans le génie de la langue. Et c'est ça qu'il faut essayer d'extraire, et surtout de rester au plus près. Alors l'enfer dont je parle, il est là. C'est-à-dire de rester au plus près, de rester au plus près de la coupe, de la mélopée, de rester proche de la mélopée, initiale, enfin, du poème d'accueil. Et c'est là que c'est l'enfer, quoi. Et surtout avec Mes Allèles, parce qu'elle a une syntaxe très étirée. Si vous voulez, par exemple, ça peut, c'est pas très adroit comme je vais le dire, mais on peut dire, par exemple, ça, le sujet peut commencer là, et puis il y a plein d'incises, d'incidentes, et puis vous avez le verbe qui est là, au milieu, et puis la fin de la proposition, tout à la fin. Donc ça demande déjà une gymnastique pour bien saisir son propos, qui est par ailleurs donc plein d'incidents, et souvent ironisée dans ce qu'elle dit elle-même, et donc de restituer ça, enfin de translater ça, pour qu'on garde effectivement une sorte de d'unité comme ça, qu'on ne lâche pas le poème quand on le lit en français.
Vous-même, Olivier Appert, vous signez une sorte de essai, poème, adresse, lettre en fin d'ouvrage, à la fin de votre livre, hein. Qui s'appelle Love Song to Minaloy. Ça le mérite d'être clair.
Ça le mérite d'être clair. Poème. C'est éperdument.
Est-ce que vous avez besoin de ça pour traduire ?
J'ai besoin d'être dans une relation d'affect. C'est évident. Mais c'est une relation amoureuse, quoi. On est dans la découverte, on est dans un coup de foudre. Et là, c'est un coup de foudre. En plus, vous parlez de l'enfer de la traduction. Donc, c'est effectivement une relation amoureuse extrêmement conflictuelle. Parce que quand vous traduisez Minaloy, vous êtes là vraiment, par moments, vous avez envie de l'étrangler. Hein, vous êtes dit, là, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu me fais? C'est quoi ça? Voilà. Vous êtes là, vous n'en pouvez plus. Donc, vous avez envie de divorcer, de l'acheter par la fenêtre, et que sais-je. Et en même temps, vous y revenez éperdument. Voilà. Donc, c'est une relation d'amour, et qui dure. Hein. Et qui ne finit pas mal, contrairement à ce que dit la chanson pour l'instant.
Je disais Olivier, on pouvait le dire qu'il était l'inventeur de Minaloy en France, comme Borges disait de Caillois qu'il avait été son inventeur en France, parce que c'est ça quand même.
Ah, merci. Comme c'est gentil, Olivier.
La saxophoniste Sophie Allour pour une ode à Arthur Cravan. Arthur Cravan, on y revient, forcément. Avec vous, Philippe Milot, designer graphique, dessinateur de livres, pour être plus précis, puisque c'est le terme que vous avez choisi, que vous vous êtes choisi. Qu'est-ce que ce choix, d'ailleurs, dit et de votre rapport au livre et de votre pratique de designer graphique ? Est-ce que j'ai le droit de le dire?
Oui, vous pouvez le dire, moi pas. Mais designer graphique, pour moi, ça probablement que ça a à voir avec une profession, peut-être un statut, mais ça ne dit rien de ce que je fais. Designer graphique, ça ne veut rien dire. Quand mes enfants m'ont posé la question un peu petit, je ne me voyais pas dire une chose comme ça. Et ne me voyant pas leur dire une chose comme celle-là, je ne me voyais pas, moi, me dire cette chose-là. Donc, je me suis demandé ce que je faisais. Et ce qu'il faisait et qu'il pouvait saisir. Et j'avais l'impression, au fond, que je dessinais. Que ce que je faisais tous les jours, c'était dessiner. Ce qui me permettait, en fait, de faire deux choses à la fois. Eux, ils dessinaient aussi tous les jours. Ils dessinaient à l'école, pour le temps de l'école, mais ils dessinaient aussi à la maison. Donc, il n'y avait pas de partage entre le temps de l'école et le temps de la maison pour ce qui est du dessin. Et j'aimais, je crois, essayer de poser le fait qu'il n'y avait pas de différence entre ma vie de tous les jours et ce qui pourrait ressembler à un travail.
Dessiner des livres, dont Philippe Milot, c'est ce que vous faites depuis plus de 15 ans maintenant, pour les éditions 100 pages, hein, fondées par Olivier Gadet. Deux collections jusqu'à présent, mais je crois qu'il y en a une troisième qui s'annonce. Rouge-gorge et Cosaque, et puis un principe graphique peut-être, mais pas seulement, jamais le même livre, hein, entre livre et livre-objet, avec ces jeux de matière, de mise en page, ces empreintes des techniques anciennes, beaucoup, on va y revenir. Puisqu'il est question un peu de Cravan, Vous vous êtes chargé du dessin de la fabrique de deux ouvrages aux éditions 100 pages, donc Pas maintenant, ça c'était paru en 2014, hein, qui est une merveille en trois temps. Hélas, ça n'est pas radiogénique, mais je vous assure, c'est une merveille. 40 images plus détails d'une seule et même photo de Cravant, donc c'est pendant son fameux combat à Barcelone hein, en 1916, placé en bas à droite de la page, hein, comme une espèce de petit flipbook.
C'est ça.
35 lettres inédites à la journaliste et correspondante de guerre et dramaturge Sophie Treadwell, écrites entre avril 17 et septembre 18, et puis les 24 pages de notes, hein, le dernier prosopoème hein, le prosopoème de Cravant, écrit en 17, et qui sera publié par Breton en 43. Ça, c'est pour le premier. Et puis, deux ans plus tard, paraît « Adieu, je pars à la gare », à nouveau les 35 lettres à Sophie Treadwell. Petit format cette fois, couverture noire, titre format carte de visite cartonnée, détachable donc sur la couverture. Si comme vous le dites souvent Philippe Milhaud, faire un livre c'est préparer le suivant ou éventuellement améliorer le suivant, qu'est-ce qu'il se passe pour ces lettres en passant de l'un à l'autre? Est-ce que quand on lit plusieurs éditions d'un même texte, on lit le même texte?
Alors je vais revenir à dessiner. Souvent en fait je dis que je lis les livres que je dessine, ce qui peut paraître normal, mais qui n'est peut-être pas si fréquent. Et donc, je lis les livres que je dessine et je finis par dire « je dessine ma lecture ». Je pense qu'on peut avoir plusieurs lectures d'un même texte et qu'on peut avoir des lectures très différentes, qu'on peut avoir envie, je dirais, de raconter d'autres histoires à partir d'un même texte. Il se trouve que probablement avec Olivier Gadet, en fait, avec les éditions 100 pages, bien sûr que le livre porte un texte et que mon travail consiste à redonner son texte et à ne pas le modifier. Mais je suis la parole des autres et au fond, j'ajoute une histoire à l'histoire qui figure dans le texte. Et à un mois d'intervalle, mais peut-être même à moins que ça, le matin et l'après-midi, je ne ferai certainement pas le même livre. Alors c'est vrai pour Cravant, c'est vrai pour les lettres de Sophie Treadwell. Il se trouve que, au fond, la deuxième version revient à une version initiale qui n'est pas parue. C'est-à-dire qu'au fond, on fait un petit retour en arrière. Alors j'ai apporté ici des objets que vous ne verrez pas, mais que je vais essayer de décrire. Le livre qui est paru, le premier, qui s'appelle « Pas maintenant », qui était une sorte de pied de nez à un premier projet qui était de rééditer aux éditions 100 pages « Maintenant ».
C'est la revue d'Arthur Cravant.
La revue d'Arthur Cravant. Comme nous ne la faisions pas ou que je ne la faisais pas, Olivier Gadet a suggéré que peut-être on pourrait faire « Pas maintenant » en attendant « Maintenant
». Qu'on attend toujours.
Qu'on attend toujours. Donc on a commencé comme ça. Et il se trouve que le projet initial était de publier les lettres de Sophie Treadwell. Mais que, comme toujours, dans un échange, alors est-ce que je l'ai proposé, est-ce qu'Olivier l'a proposé, je ne sais plus, en fait je ne sais plus très bien qui fait quoi. Mais on s'est retrouvé avec les lettres de Sophie Treadwell, avec l'envie de faire un flipbook sur le combat de Cravant avec Johnson, de publier Notes, et qu'au fond, on n'avait plus un livre, mais on en avait trois. Et j'ai proposé à Olivier, j'ai dessiné finalement trois objets. Un tout petit, qui était le flipbook, un moyen, qui est les lettres de Sophie Treadwell, et un grand, qui était Notes. On a cherché à le réaliser. C'était un peu compliqué, onéreux. Et finalement, on a trouvé une solution que je n'appellerais certainement pas une solution intermédiaire, mais qui était une solution autre, qui consistait à poser ces trois objets qui devaient être séparés en un seul. Et puis, à un moment, on a eu, enfin Olivier, moi, je ne sais plus, on a eu envie de redonner les lettres comme étant une chose unique et pas simplement comme quelque chose qui se lit à travers Cravant. Au fond, c'était aussi une possibilité d'entendre davantage Sophie Treadwell et peut-être un peu moins Cravant dans le fond.
Mathieu Terrence,
je pense qu'à ce moment-là, il est dans un tel état d'exaltation et en même temps de perdition. Il a fui New York, il est un renégat, il se déguise en soldat anglais, en femme. Il perd son meilleur ami au cours de cette fuite qui va l'amener jusqu'à Terre-Neuve et il pourra prendre un bateau. Et tout. Moi, j'ai interprété ça comme en fait, à ce moment-là, il est dans une sorte de... C'est un homme qui se noie et qui est immensément sincère dans les deux manières de d'écrire à ces deux femmes. Au fond, il écrit à l'amour et il veut que l'amour lui réponde. Et si c'est l'une qui répond, ce sera très bien. Et si c'est l'autre, c'est très bien aussi. Il a besoin d'amour. Il a besoin que l'amour lui réponde. Et en même temps, il y a un petit casting qui s'opère en douce parce que c'est laquelle va le suivre. Laquelle va venir au Mexique. Et Mina va venir.
Oui, mais de toute façon, on sent bien dans la correspondance aussi que, enfin, en tout cas dans ses lettres aussi, qu'elles sont très très empressées, ces lettres au début. Hein, c'est ma grande chérie, ma toute belle, ma grande adorée, etc. Et puis qu'au fur et à mesure, ce sont des lettres qui deviennent, disons, plus tendres.
Et vocabulaire qu'il écrit aussi à Mina, qu'il est, la vie est atroce. Ça, c'est, quand il dit, la vie est atroce. Il pense au suicide, évidemment. Et c'est aussi ma grande adorée, Amina, là, ma grande chérie. Je regrette tout ce que j'ai fait. Si ça avait pu se passer autrement, tu verrais comme, etc. Donc il y a. Mais Mathieu a raison, là, je crois que c'est vraiment. La Cravant est en totale perdition. Ouais. Et je pense qu'il est au bout du rouleau. Il se sent au bout du rouleau. Et c'est un appel désespéré. C'est totalement désespéré.
Dans Pas maintenant, Philippe Milhaud figure donc en dernier lieu, on en parlait à l'instant, note, hein, donc ce chef-d'œuvre que Cravant a laissé en chantier. Hein, donc ce sont des blancs, des verts, des alexandrins qui va parfois un peu abandonner. Il y a des suggestions alternatives, des ratures, des corrections. Du blanc aussi, pas mal d'ailleurs. C'est écrit au crayon de papier, c'est repassé à l'encre. Hein. Et je me demandais sous quelle forme ces notes-là vous avaient été transmises, d'abord dans un premier temps, et surtout, quelles sont les premières questions qu'on se pose face à un tel texte.
Alors, dans un premier temps, ça m'a été donné comme un fichier numérique simple, avec quelques indications. Indication vague, hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait absolument aucune intention de mise en forme dans les indications. C'était simplement le fait que il pouvait y avoir parfois effectivement des ratures dans le texte initial, que Cravant avait hésité entre deux mots, etc. Enfin, ce type de choses. À moi de voir ce que je voulais faire de ça. C'est-à-dire, au fond, est-ce que je n'en tenais pas compte, je passais outre en fait les ratures et je donnais la version, je dirais, éditable, éditée du texte. Alors je n'avais pas envie en fait de ça, pour une première raison qui est une raison de, je dirais, d'exercice personnel, qui consiste à se donner quelques difficultés, quelques contraintes pour développer une typographie qui serait plus singulière à l'endroit où on la pose. Je veux dire par là, j'ai essayé d'expliquer ça. Lorsque vous mettez en forme un roman, qui se compose comme un roman avec un texte justifié, il y a tous les ans je ne sais combien de romans qui sont édités, cela se fait à peu près toujours de la même façon. Il arrive même assez souvent que ce ne soit mis en forme par personne. C'est-à-dire qu'au fond, un logiciel automatique produit un certain nombre de pages avec une justification, une largeur donnée, et personne ne le regarde. Il se trouve que ce n'est pas du tout le cas des éditions sans page, où je mets en forme et où je vérifie la justification de chacune des lignes et où je travaille le texte ligne à ligne pour obtenir la texture que je souhaite. Cette texture vient du texte. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que je le lis, c'est qu'au fond, je ne vais pas composer le texte de la même façon lorsqu'il s'agit de l'écriture de Tchekhov ou de l'écriture de Mark Twain. Il se trouve que ces écrivains ont un rythme, on va dire qu'on entend, un rythme sonore, mais ils ont aussi un rythme typographique qu'on ne découvre que lorsqu'on les met en forme. Certains sont très bien sur une justification de 9 cm, d'autres sont mieux sur une justification de 9,5 cm. Ça marche mieux, ça se coupe mieux, ça se lit mieux. Bon. En tout cas, je le lis mieux de cette façon-là. Et comme c'est moi qui mets en forme, c'est moi qui lis, et donc c'est moi qui décide. À ce moment-là, en tout cas, c'est moi qui décide. Alors, lorsque j'ai eu à mettre en forme ce texte-là, le texte de Cravant, j'ai essayé de chercher ce qui pourrait m'obliger à le lire spécifiquement. Donc j'ai cherché quels étaient les accidents, les particularités qui pourraient m'obliger à exercer mon travail de dessinateur. Donc j'ai plutôt saisi le fait qu'il y avait des ratures, qu'il y avait des alternatives pour essayer d'inventer une forme qui, pour moi en tout cas, doit être à la fois une invention et à la fois qu'une fois qu'on l'a regardé, on puisse penser que personne n'a fait ce travail. Qu'au fond, c'est Cravant qui l'a fait et c'est pas moi. et que on puisse se dire après, finalement, il n'a fait qu'épouser le corps de Cravant, enfin, en tout cas, sa littérature. Et que ceux qui pourraient travailler après pourraient se sentir obligés de regarder cette forme-là, parce que ce serait la forme de Cravant et pas la mienne. Donc il y a cette drôle d'ambition, à la fois d'exister et de disparaître.
Alors, qu'est-ce que c'est que la forme de Cravant, justement? Parce que sur la page, donc, beaucoup de blanc, avec des caractères de plutôt petit format. Oui. C'est très gras, très noir, oui. Hein, c'est petit, assez trapu.
Oui. J'ai un dessin, encore une fois, je vais vous le décrire. C'est-à-dire que c'est un dessin préparatoire, on va dire, aux différents éléments qui figurent dans le livre. Il y a cette première partie qui est faite des images du flipbook, enfin du combat, c'est-à-dire un film qu'on a transformé en flipbook. Il y a ensuite les lettres à Sophie Tridwell, et puis il y a Notes, le prosopoème. J'ai essayé de me le figurer par un dessin. Et quand on regarde le dessin, c'est un dessin qui est fait dans un premier temps de petits points verts verticaux, comme des points qui tombent. Puis ensuite, on a une forme rouge qu'on pourrait imaginer, je ne veux pas dire que c'est un cœur, parce que ça n'en est pas un, mais en tout cas une trace rouge assez dense, qui constitue en quelque sorte les lettres à Sophie Tridwell. Et puis ensuite, on a des lignes bleues très espacées qui contrastent davantage avec le blanc du papier. Au fond, le livre est toujours un peu pour moi est toujours un film. C'est-à-dire, c'est une histoire que je raconte. Alors au fond, cette histoire que je viens de dire, c'est-à-dire des petits points verts qui tombent, auxquels succèdent une forme rouge très dense, puis ensuite des lignes bleues très espacées, horizontales, elles, et plus verticales. C'est ça l'histoire que je me raconte. Et je me dis, ce livre doit ressembler à ça. Il doit à la fin devenir cette chose qui, pour moi, n'est pas facultative. Enfin, facultative au sens où, je me souviens, ça n'a rien à voir peut-être, mais Beckett écrivait à un de ses amis où il disait qu'il avait écrit quelques poèmes, mais que, au fond, ces poèmes n'avaient pas grand intérêt pour lui parce qu'il lui semblait, non pas qu'il soit mal écrit, mais toujours facultatif. J'essaye de dessiner des choses qui n'ont peut-être rien à voir avec le sujet, mais qui rendent pour moi ces textes non facultatifs et qui arrivent à une forme dont j'ai le sentiment que ça ne pourra pas être une autre. En tout cas, ce jour-là, ça ne pourra pas être une autre. À ce moment-là, ça ne peut pas être une autre. Alors, le livre, ensuite, je m'efforce de le faire venir à cet état-là, c'est-à-dire à cet état de petits points verts qui tombent, de grandes taches rouges et de lignes bleues horizontales. Alors, la typographie, ensuite, puisqu'à un moment donné, on passe à l'état typographique, mais j'ai l'impression que ce dessin est un état typographique déjà, essaye de rendre cela. Alors, il y a d'autres notions en jeu qui sont des notions, j'entendais tout à l'heure Mathieu qui parlait de vérification, finalement, il y a des choses de cet ordre-là. C'est-à-dire que si je prends ce caractère qui s'appelle de l'annonce, mais dont le nom original est Aurore, il y a l'envie pour moi de raconter une aurore, ça c'est sûr. Mais alors ça n'appartient, je veux dire, personne ne le sait. Quand on regarde ensuite ce livre, que ce caractère s'appelle Aurore, au fond, c'est une chose qui m'appartient. Aujourd'hui, elle m'appartient moins, puisque je vous l'ai dit, mais ce secret-là m'intéresse. Et que je puisse avoir le sentiment que cette dernière partie, c'est l'aurore, ça me plaît et ça m'aide à travailler.
Philippe Milhaud, Olivier Appert, Mathieu Terrence, merci à tous les trois. Hein, c'est presque la fin de l'émission. Je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors, bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
Adieu.
Adieu, adieu, je pars à la gare. Ouais.
Maintenant, pas maintenant.
Vous avez des carnets sur lesquels vous dessinez d'autres choses que des livres ?
Oui, je dessine des branches d'arbres, des rochers.
Il faut penser sérieusement à ce qu'on évoquait tout à l'heure, pour Minaloy.
En tout cas, lorsque j'écoute, en fait, ce que je retenais là, c'était l'envie de dessiner un livre éperdu. En fait, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça pourrait être effectivement une tentative que de se demander ce que c'est qu'un livre éperdu. Là, je prenais par exemple le cas du caractère Aurore. Il se trouve par exemple que les autres caractères, il y en a un qui s'appelle Fenway. Mais en fait, c'est un caractère qui a été dessiné pour un magazine de sport, hein, qui évidemment nous rapporte à la boxe un peu, à, et puis pas que ça. Enfin, j'imagine Cravant comme une sorte de sportif, vous disiez, je crois, cérébralité sensitive, ou en tout cas, ou de sportif cérébral. Enfin, de, au fond, c'est d'incarner. J'ai l'impression que les, pour, j'essaye quoi, de trouver une incarnation, de faire que ces livres-là deviennent des moments de l'existence, qu'ils aient eu une raison, oui, je sais pas, une raison d'être, enfin, à un moment, quoi. Alors, ça peut être, c'est vrai, ça peut être l'idée de raconter un matin, ça peut être l'idée de raconter d'être dans une autre ville. Souvent, les achevés d'imprimer, par exemple, mentionnent les villes, disent les villes. Là, je notais aussi le vêtement de Cravant qui apparaît donc en grec. C'est bien. Enfin, j'imagine tout à coup qu'on aurait pu poser davantage d'acropole dans ce livre-là. Faire que, en tout cas, le monde ait l'air d'être plus complet une fois qu'on a écrit ou qu'on a mis en forme. Au fond, dessiner ce que moi j'applique à ce que je fais, mais on peut imaginer que cette émission est dessinée. Enfin, dans le meilleur des cas, pour moi, elle est dessinée.
À Thierry Beauchamp pour la préparation, à Eric Villenfin pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Merci à Mathieu Terrence, Olivier Appert et Philippe Milot. Vous trouverez toutes les actualités de nos invités sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec LSD, la série documentaire.